Maseret Evamot, résumé du Daf Kuf Yud Bet. On a vu dans la Mishnah que si la Evama, elle dit, elle vient en Bedin, elle vient chez le Rav dans les 30 jours depuis le début du Hiboum. Depuis le Hiboum, ils ne sont pas encore passés 30 jours, et elle vient chez le Rav, elle lui dit qu'il a toujours pas fait Hiboum, on la croit, donc on va le forcer à faire Halita. S'il y a plus que 30 jours qui sont passés, alors on ne la croit pas complètement, parce qu'on a du mal à croire qu'il s'est retenu plus que 30 jours. Et dans ce cas-là, on ne pourra que lui demander de faire Halita. La Gemara vient comparer notre Mishnah à une discussion à propos d'un homme qui vient se plaindre que sa femme n'était pas vierge et que donc c'était la preuve que quelqu'un l'avait déjà touchée avant le mariage. Combien de temps depuis le mariage il peut venir se plaindre au Bedin? Et là, on a une discussion dessus que selon Rabbi Meir, pendant 30 jours, on peut le croire encore qu'il n'a... S'il vient même au bout de 30 jours, on va le croire qu'il n'a pas trouvé de Betulim, qu'il ne l'a pas trouvé vierge. Et donc, il pourra dire qu'il ne l'a pas touchée jusqu'à présent et que maintenant il a vu qu'elle était vierge. Plus que 30 jours, on ne le croit pas. C'est Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir pense que notre Mishnah propose de dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir plutôt. Que Rabbi aussi qui dit que dès que la femme est rentrée chez son mari, s'il vient tout de suite au Bedin se plaindre sur elle, on le croit. S'il attend un peu, on ne le croit plus parce qu'on ne va pas le croire qu'il s'est retenu. Mais la Gemara vient distinguer en disant, en ce qui concerne un homme et sa femme, on pourrait dire comme Rabbi aussi que dès qu'elle est rentrée chez lui, c'est là où tout de suite il a les rapports, mais sinon il n'attend pas, tandis que pour un Yavam et une Yavama, puisque c'est sa belle-sœur, il est plus gêné d'elle, et que donc il se peut que jusqu'à 30 jours encore, on peut la croire qu'il n'a toujours pas fait la mitzvah du Hiboum, donc on va lui dire de faire Halita. Agmar ensuite dit, on a dit on le force à faire Halita, mais pourquoi faire Halita? Pourquoi ne pas le forcer à faire Hiboum? Pourquoi on lui dit de faire Halita plutôt que Hiboum? Répond la Gemara, il s'agit d'un cas où elle a déjà un guet. Un guet qui a détaché complètement la zika, le lien qu'elle avait entre elle et lui. Ce lien-là, avant même le Hiboum, comme quoi elle est tombée devant lui en Hiboum, a été détaché par un... par un guet. Donc elle s'interdit en Hiboum devant lui, à lui. Et donc il faudrait qu'il le fasse plutôt Halita. La Gemara l'objecte, mais elle répond que de toute façon, on pourrait dire qu'elle a reçu son guet. La Gemara ensuite dit dans le cas... où les deux avouent, le mari, le Yavam et la Yavama, les deux viennent au Bedin en disant qu'effectivement, on avoue qu'il n'y a pas eu de rapport. Et Rava leur a dit de faire Halita. Mais la Gemara repoussait par une Braita qui disait que si au début il disait qu'il y a eu des rapports, il doit donner un guet plus une Halita. Même si finalement il dit non, on n'a pas eu de rapport, et la Halita est insuffisante, il faudrait qu'il lui donne un guet plus une Halita. La Gemara dit, malgré qu'on a dit que la Yavama qui dit qu'elle n'a pas eu de rapport avec le Yavam, on lui dit de faire Halita, mais en ce qui concerne la Tara, la deuxième femme du mort, elle est libre. Par rapport à elle, on ne croit pas la Yavama qui n'a pas eu de Hiboum. Par rapport à elle, dès que la Yavama est rentrée sur le Yavam, elle est tranquille, elle est libre. La Gemara ensuite ramène une Mishnah dans Maseret Nedarim qui dit... Une femme qui a juré de ne pas profiter des Juifs en général, de ne pas avoir de rapport avec les Juifs, elle voulait s'interdire en fait son mari. Eh bien, on a vu dans la Mishnah qu'une Mishnah dans Nedarim qui disait que, en principe, on devait lui demander de donner un guet à sa femme. Enfin, il doit donner un guet plus la Ktouva. Mais après, on s'est dit que, avec le temps, on s'est dit peut-être que la femme veut se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc, on ne va pas la croire comme ça facilement. Il faudrait qu'il annule, le mari annule sa part, ce qui le concerne de ce néder, pour qu'elle puisse rester chez lui. Et des autres juifs, elle est interdite. La question qui se pose ici, c'est quand il est mort, est-ce qu'elle peut aller chez le Yavam et faire Hiboum, oui ou non? Est-ce qu'elle a pensé à s'interdire le Yavam, ou bien puisque son mari était vivant, elle n'a pas pensé à s'interdire le Yavam? La Gemara ramène là-dessus une discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'elle s'interdit le Yavam? Oui ou non? La Gemara ramène une preuve pour Rav, comme quoi elle ne pense pas au Yavam du vivant de son mari, elle ne pense pas au Yiboum, donc elle n'a pas pensé s'interdire le Yavam aussi, il pourrait donc faire Yiboum. Et la Gemara repousse en disant qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'un cas où elle a des enfants. Si elle a des enfants, c'est sûr qu'elle ne pense pas du vivant de son mari au Yiboum, tandis que dans le cas où elle n'a pas d'enfants, là, revient la discussion. Est-ce qu'elle pense à l'option du hiboum, à s'interdire le hiboum, Oui ou non. Mais la Gemara repousse cette distinction. Elle revient à dire que, effectivement, comme Rav, on voit qu'elle ne pense pas au Yiboum, aussi bien si elle a des enfants que si elle n'en a pas. Et donc, on ne pourra pas l'accuser à s'être interdite le Yiboum. Dans ce cas-là, elle pourrait aller avec le Yavam. De même que dans le cas de notre Mishnah, quand elle s'interdit directement le Yavam, puisque c'était du vivant de son mari, elle s'est disputée avec son beau-frère. Ici, on ne dit pas qu'elle a pensé à s'interdire le Yiboum. On dirait qu'elle ne s'est interdit qu'en général les profits du Yavam. Et puisqu'elle n'a pas eu d'intention directe sur le Yiboum, on va le forcer à faire Khalita. On ne pourra pas l'accuser à elle. On devra donc forcer le Yavam à faire Khalita. Et là, on commence, Bezrat Hashem, le 14e Perek de la Maseret. Ici, la Gemara ramène toutes les Mishnayot du Perek, l'une après l'autre. Il y a 9 cas qui sont traités dans la Mishnah. Et ensuite, il n'y aura que la Gemara dessus, sans Mishnah du tout. Et donc, ça nous donne une grande Mishnah qui ramène toutes les options de mariage avec entre Cheresh, le sourd ou la sourde, et Pikeach normal, dans un cas où il n'y a que un mariage, dans le cas où il y a deux frères avec deux sœurs. Donc, les options sont traitées ici dans la Mishnah. Et le premier cas, il est le Cheresh qui s'est marié. Le Cheresh, c'est le sourd. Donc, il y a une conscience pas très complète, parce qu'il n'a pas de vie sociale. Il s'est marié avec une femme normale, ou le contraire, un homme normal avec une femme chérechette, sourde. Il peut la garder s'il veut, et il peut la divorcer par un guet. Il n'y a pas de problème de la divorcer en guet. Deuxième cas, c'est un homme normal qui s'est marié avec une femme normale, et elle est devenue chérechette. Elle n'entend plus. Il peut la divorcer s'il veut en lui donnant un guet. Il n'y a pas de problème. On ne dira pas que le divorce est plus faible que le mariage. Si par contre elle a perdu la raison complètement, ou presque complètement, là, il ne peut plus la divorcer. Si maintenant c'est lui qui est devenu sourd, ou qui a perdu la raison, là il n'y a pas de solution, il ne peut pas la divorcer du tout. Parce que le mari doit être conscient au moment du divorce, alors que la femme, on n'a pas besoin de sa conscience ni de son accord pour le divorce. La Gemara d'ailleurs amène au passage, même si une chérechette a été mariée minatora par son père, et qu'ensuite elle a grandi et que son mari vient lui donner un guet, c'est valable. Troisième cas, deux frères sourds mariés avec deux sœurs n'importe, ou bien deux sœurs sourdes mariées avec deux frères n'importe qui, n'importe quel frère. Qu'est-ce qu'on fait de ce mariage? Eh bien, dès qu'il y en a un qui est mort, la question n'est pas sur le mariage, elle est plutôt sur le hiboum. Dès qu'il y en a un qui est mort, le deuxième n'a pas besoin de faire ni hiboum ni khalita, puisqu'elles sont des sœurs, et qu'un mariage n'est pas mieux que l'autre. Donc, je considère que en tant que la sœur de sa femme, elle ne peut pas faire ni hiboum ni khalita. Si par contre elle n'était pas des sœurs, il fait hiboum s'il veut, et ensuite il peut la divorcer par un guet. Mais faire khalita, c'est pas possible parce qu'il y a ici un côté khéresh, donc la khalita n'est pas possible. Donc il fera hiboum et ensuite il peut donner un guet, ça va. Quatrième cas, deux frères qui sont mariés avec deux sœurs normales. Mais les frères, ils sont un sourd et un normal. Et là, il faut savoir si le Yavam, c'est le sourd, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait de sa femme? Qu'est-ce qu'il fait de sa Yevama? Donc, dans le cas où le Yavam, qui doit faire Iboum, c'est le sourd, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Dans le cas où c'est le contraire, c'est le Yavam, c'est le normal, donc c'est le Cheresh, le sourd qui est mort. Si c'est le sourd qui est mort, et que le Yavam il est normal, la femme elle est libre parce que le mariage du Yavam avec sa femme est plus fort que le mariage de son frère avec la Yavama, tandis que dans le cas où c'est le contraire, c'est le monsieur normal qui est mort et que donc le Yavam c'est lui le sourd, qu'est-ce qu'il fait donc le Yavam maintenant? Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Qu'est-ce qu'il fait avec sa Yavama? Il doit divorcer sa femme parce qu'elle est repoussée de devant sa sœur, la Yavama. La sœur, elle tombe en hiboum minatora alors que la femme n'est mariée que midrabanan. Donc il est obligé de divorcer sa femme par un guet. Et sa belle-sœur n'a pas de solution puisqu'il est cheresh. Il ne peut pas faire khalita. Se marier avec elle, il ne peut pas non plus parce qu'elle est la sœur de sa femme. Donc elle n'a pas de solution. Le cas suivant, c'est le cas contraire. Le cas contraire, donc ce sont deux frères normaux mariés à deux sœurs, une sourde et une normale. À nouveau se pose la question, si un des deux est mort, qu'est-ce que le deuxième fait, qu'est-ce que l'Eyavam fait avec l'Eyavama et qu'est-ce qu'il fait avec sa femme. Et à nouveau, c'est traité dans la Mishnah dans les détails. Le cas suivant, c'est deux frères, un sourd et un normal, mariés à deux sœurs, une sourde et une normale. À nouveau, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de Iboum? Le septième cas de la Mishnah, c'est le cas de deux frères, un sourd et un normal, mariés à deux étrangères normales. Le huitième cas, c'est deux frères normaux mariés à deux étrangères qui ne sont pas des sœurs, mais une qui est normale et une qui est sourde. Et le neuvième cas de la Mishnah, c'est deux frères, un sourd et un normal, mariés avec deux femmes étrangères qui est une sourde et une normale. Qu'est-ce qu'on fait ici pour la Khalitza et le Iboum? Donc ici, c'est simple. Si le sourd est mort, le normal fait Iboum avec la sourde, sa femme, la Yevama, qui n'est pas donc la sœur de sa femme. Et ensuite, il peut la divorcer par un guet. Mais faire Khalitza, on ne peut pas faire Khalitza avec une Khereshette. Si par contre, c'est le monsieur normal qui est mort, qu'est-ce que le sourd y fait avec l'Eyvama? Il ne peut que se marier avec elle en faisant Iboum. Il ne peut pas faire Khalitza parce qu'il est sourd. Il ne pourra pas non plus donner un guet parce que le mariage, donc le Iboum qui vient par le premier mariage est plus fort que le guet qu'il pourra donner aujourd'hui. Parce que le premier mariage a été fait minatora, tandis qu'aujourd'hui, il se retrouve maintenant, lui, en tant que Khéresh, il peut pas donner un guet pour couper un mariage qui est plus fort que le guet, puisque le mariage a été minatora par son frère, le normal, avec la femme normale. Donc, il ne peut que faire Iboum et ne pas la divorcer du tout.